Audiolib présente Le Seigneur des Anneaux, volume 1. La Fraternité de l'Anneau de John Ronald Reuel Tolkien. Lu par Thierry Janssen. Trois anneaux pour les rois des elfes sous le ciel. Sept aux seigneurs des nains dans leur salle de pierre. Neuf aux hommes mortels voués à trépasser. Un pour le seigneur sombre au trône de ténèbres, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les dominer tous. Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Prologue. À propos des Hobbits. Ce livre est en grande partie consacré aux Hobbits, et le lecteur pourra découvrir dans ces pages une bonne part de leur caractère et un peu de leur histoire. D'autres informations se trouvent également dans l'extrait du livre rouge de la Marche de l'Ouest, déjà publié sous le titre « Le Hobbit ». Cette histoire était tirée des premiers chapitres du livre rouge composé par Bilbo lui-même, le premier Hobbit à s'être fait connaître dans le monde entier. Histoire qu'il intitula « Un aller et retour », puisqu'elle racontait son voyage dans l'Est et son retour à la maison. Une aventure qui finit par entraîner tous les Hobbits dans les grands événements de cet âge dont il sera ici question. Mais de nombreux lecteurs voudront peut-être, d'entrée de jeu, en savoir davantage au sujet de ce peuple remarquable, tandis que d'autres pourraient ne pas posséder le précédent livre. C'est pourquoi nous rassemblons ici quelques notes sur les points les plus importants tiré de la tradition Hobbit, et nous rappelons brièvement la première aventure. Les Hobbits sont un peuple longtemps passé inaperçu, mais néanmoins très ancien, plus nombreux autrefois qu'il ne l'est aujourd'hui. Car ils aiment la paix, la tranquillité et une bonne terre au long labour. Rien ne leur convenait mieux qu'une campagne bien ordonnée et bien cultivée. Ils ne comprennent pas, et n'ont jamais compris, ni aimé, les machines plus compliquées qu'un soufflet de forge, un moulin à eau ou un métier à tisser rudimentaire, bien qu'ils aient su manier les outils avec habileté. Même aux temps anciens, ils étaient généralement très réservés avec les grandes gens, comme ils nous appellent. Et de nos jours, ils nous évitent avec effroi et deviennent difficiles à trouver. Ils ont l'ouïe fine et l'œil perçant. Et s'ils ont tendance à l'embonpoint et ne se pressent jamais sans nécessité, ils montrent néanmoins beaucoup d'agilité et d'adresse dans leurs mouvements. Ils ont toujours été doués dans l'art de disparaître rapidement et sans bruit, quand de gros pataux qui ne souhaitent pas rencontrer s'aventurent de leur côté. Et cet art, ils l'ont perfectionné à tel point qu'il peut paraître magique aux yeux des hommes. Mais les hobbits n'ont, en fait, jamais étudié de magie d'aucune sorte, et leur nature insaisissable n'est due en réalité qu'à une habileté professionnelle que l'hérédité et l'expérience, de même qu'une étroite union avec la Terre, ont rendu inimitable pour d'autres races plus gauches et lourdes. Car les hobbits sont des gens de petite stature, plus petits que les nains, moins gros et trapus, s'entend, même quand ils ne sont pas beaucoup moins grands. Car leur taille est variable, entre 2 et 4 pieds, selon nos mesures. De nos jours, ils atteignent rarement 3 pieds, mais les hobbits ont rapetissé, disent-ils, et anciennement, ils étaient plus grands. Selon le livre rouge, Bandobras Touk, fier taureau, fils d'Isumbras III, mesurait 4 pieds 5 pouces et pouvait monter à cheval. Dans toutes les chroniques hobbits, il ne fut surpassé que par 2 célèbres personnages de jadis, mais cette étrange histoire sera abordée dans le présent livre. Quant aux hobbits du comté dont il est question dans ces récits, au jour de leur prospérité et de leur paisible existence, c'étaient de joyeuses gens. Ils s'habillaient de couleurs vives, avec une préférence marquée pour le jaune et le vert. Mais ils portaient rarement des chaussures, ayant la plante des pieds dure comme du cuir et recouverte d'un épais poil brun et frisé très semblable à leur chevelure, laquelle était généralement brune. Ainsi, le seul métier qu'ils ne pratiquaient pas couramment était la cordonnerie. Mais ils avaient de longs doigts habiles et pouvaient fabriquer bien d'autres choses utiles et belles. Leur visage était d'ordinaire plus enjoué que joli, large, avec des yeux brillants, des joues rouges et une bouche qui se prêtait volontiers au rire, au manger et au boire. Et pour ce qui était de rire, de manger et de boire, ils le faisaient souvent et avec entrain, ne dédaignant pas une bonne plaisanterie et 6 repas par jour, quand ils le pouvaient. Ils étaient accueillants et adoraient les fêtes ainsi que les cadeaux qu'ils offraient sans compter et acceptaient sans se faire prier. Il semble en effet, même s'ils se sont beaucoup éloignés par la suite, que les hobbits nous sont apparentés. Ils sont bien plus proches de nous que les elfes ou même les nains. Jadis, ils parlaient les langues des hommes, à leur manière, et avaient à peu près les mêmes goûts et les mêmes aversions que les hommes. Mais il n'est plus désormais possible de découvrir la nature exacte de cette parenté. L'apparition des hobbits remonte à très loin, aux jours anciens qui sont aujourd'hui perdus et oubliés. Seuls les elfes conservent encore des chroniques de cette époque disparue et leurs traditions concernent presque entièrement leur propre histoire, dans laquelle les hommes apparaissent rarement et les hobbits ne figurent pas du tout. Or, il apparaît que les hobbits vivaient depuis maintes longues années en terre du milieu, longtemps avant que les autres peuples se soient même avisés de leur paisible existence. Et le monde étant, après tout, peuplé de créatures étranges en quantité innombrable, ces gens de petite stature ne semblaient revêtir que peu d'importance. Mais du temps de Bilbo et de Frodo son héritier, ils acquirent soudainement, sans l'avoir cherché, une importance et une renommée hors du commun et troublèrent les conseils des sages et des grands. Cette époque, le troisième âge de la Terre du Milieu, est révolue depuis longtemps et la forme des terres est aujourd'hui complètement changée. Mais les régions où vivaient alors les hobbits étaient sans doute celles où ils subsistent encore de nos jours, le nord-ouest du vieux continent, à l'est de la mer. De leur pays d'origine, les hobbits du temps de Bilbo ne savaient plus rien. Le goût du savoir, autre que généalogique, était loin d'être répandu chez eux, bien qu'il y eût encore quelques individus des familles plus anciennes pour étudier leurs propres livres d'histoire, et même les relations de pays et d'époques reculées qu'ils recueillaient auprès des elfes, des nains et des hommes. Leurs propres archives ne commençaient qu'après la colonisation du comté, et leurs plus anciennes légendes ne remontaient guère plus loin qu'à leurs jours d'errance. Il apparaît néanmoins, à la lumière de ces légendes et de ce que nous apprennent leurs vocables particuliers et leurs coutumes distinctives, que dans leur lointain passé, comme bien d'autres peuples, les hobbits s'étaient déplacés vers l'ouest. Leurs contes les plus anciens semblent laisser entrevoir une époque où ils vivaient dans les vallées supérieures de l'Anduin, entre l'orée de Verbois-le-Grand et les montagnes de brume. On ne sait plus aujourd'hui pourquoi ils ont entrepris la dure et périlleuse traversée des montagnes jusqu'en Eriador. Leur propre récit faisait état de la prolifération des hommes dans le pays et du nombre tombé sur la forêt, de sorte qu'elle s'enténébra et prit le nom de Grand Peur. Avant la traversée des montagnes, les hobbits s'étaient déjà scindés en 3 espèces quelque peu différentes, les pieds velus, les forteaux et les peaux blêmes. Les pieds velus étaient plus bruns de peau, plus petits et plus courts, et ne portaient ni barbe ni bottes. Leurs pieds et leurs mains étaient agiles et bien faits, et ils préféraient les montagnes et les collines. Les forteaux étaient plus larges, plus robustes. Leurs pieds et leurs mains étaient plus massifs et ils préféraient les plaines et le bord des rivières. Les peaux blêmes avaient le teint et les cheveux plus pâles et ils étaient plus grands et minces que les autres. Ils aimaient les arbres et les terres boisées. Les pieds velus côtoyaient beaucoup les nains autrefois et vécurent longtemps sur les contreforts des montagnes. Ils migrèrent très tôt vers l'ouest et parcoururent l'Eriador jusqu'à Montauvan pendant que les autres habitaient encore la contrée sauvage. Cette variété était, sans aucun doute, la plus ordinaire et la plus représentative du peuple hobbit, et de loin la plus nombreuse. Les pieds velus étaient les plus enclins à s'établir en un lieu précis, et furent ceux qui conservèrent le plus longtemps leur habitude ancestrale d'habiter dans des tunnels et des trous. Les forteaux s'attardèrent longtemps sur les rives du grand fleuve Anduin et se cachaient moins des hommes. Ils passèrent à l'ouest des montagnes après les pieds velus, suivant le cours de la Bruyando vers le sud. Et là, nombre d'entre eux vécurent longtemps entre Tarbad et les frontières de la Dunland avant de remonter vers le nord. Les Poblèmes, les moins nombreux, étaient une branche nordique. Ils étaient en meilleurs termes avec les elfes que ne l'étaient les autres hobbits, plus doués pour les langues et les chansons que pour le travail manuel. Et autrefois, ils préféraient la chasse au labour. Traversant les montagnes au nord de Fandeval, ils descendirent la rivière Fongrège. En Eriador, ils se mêlèrent bientôt aux autres groupes qui les avaient précédés. Mais comme ils étaient un peu plus hardis et aventureux, il n'était pas rare de les voir assumer un rôle de meneur ou de chef dans les clans de Piévelu ou de Forteau. Même au temps de Bilbo, une forte ascendance Poblème se remarquait encore dans les grandes familles, notamment chez les Touques et les maîtres du pays de Bouc. En Eriador, cette terre de l'ouest comprise entre les montagnes de Brume et les montagnes de Lune, les hobbits trouvèrent tant des hommes que des elfes. En effet, il s'y trouvait encore quelques descendants des Dunedain, les rois des hommes de l'Occidental, ayant jadis traversé la mer. Mais leur nombre diminuait rapidement, et les terres de leur royaume du Nord devenaient partout désertes. Il y avait amplement assez de place pour accueillir de nouveaux venus, et les hobbits ne tardèrent pas à s'établir en communautés ordonnées. Du temps de Bilbo, la plupart de leurs anciens établissements étaient disparus et oubliés depuis longtemps. Mais l'un des premiers à devenir un bourg d'importance subsistait encore, sans toutefois être aussi vaste que par le passé. Il se trouvait à Brie et dans le bois de Chette tout autour, à quelques 40 000 à l'est du comté. Ce fut sans doute à cette époque reculée de leur histoire que les hobbits apprirent et à lire et à écrire, à la manière des Dunedain, lesquels avaient appris cet art des elfes longtemps auparavant. À cette même époque, ils oublièrent toutes les langues qu'ils avaient pu parler jusque-là et employèrent dès lors le parler commun, appelé occidentalien, qui était en usage dans tous les territoires des rois, de l'Arnor au Gondor et le long de toutes les côtes de la mer, du Belfalas au golfe du Lune. Ils conservèrent néanmoins quelques mots à eux, ainsi que leurs propres appellations des mois et des jours, et bon nombre de noms et prénoms hérités du passé. Pour les hobbits, c'est aux alentours de cette époque que s'arrête la légende et que commence l'histoire, avec un compute des années. Car ce fut en l'an 1601 du Troisième Âge que les frères Marco et Blanco, des Poblèmes, partirent de Brie, et ayant obtenu l'autorisation du grand roi de Fornost, Argeleb II, ils traversèrent le fleuve Baranduin aux eaux brunes avec une grande suite de hobbits. Ils franchirent le pont des Arcs en pierre, construit au faîte de la puissance du royaume du Nord, et prirent toutes les terres situées au-delà pour s'y établir, entre le fleuve et les coteaux du lointain. On leur demanda simplement d'entretenir le grand pont, ainsi que tous les autres ponts et routes, d'accorder libre passage aux messagers du roi et de reconnaître sa souveraineté. C'est alors que commença le compute du comté, que l'on nommera désormais CC. Car l'année de la traversée du Brandivin, ainsi qu'on transforma ce nom chez les hobbits, devint l'an 1 du comté, toutes les autres dates étant comptées à partir de celle-ci. Les hobbits de l'Ouest tombèrent aussitôt amoureux de leur nouveau pays. Ils y demeurèrent et bientôt disparurent une fois de plus de l'histoire des hommes et des elfes. Tant qu'il y eut un roi, ils restèrent en principe ses sujets, même si en réalité ils étaient gouvernés par leur propre chef et ne prenaient aucune part aux événements du monde extérieur. Lors de la dernière bataille à Fornost contre le sire sorcier de Langmar, ils envoyèrent des archers au secours du roi, ou du moins l'ont-ils affirmé, bien qu'aucun récit des hommes n'en fasse état. Mais au terme de cette guerre, le royaume du Nord prit fin, après quoi les hobbits s'approprièrent les terres et se choisirent un taïn parmi leurs chefs pour exercer l'autorité du roi qui n'était plus. Là, pendant un millénaire, ils furent peu inquiétés par les guerres, et ils prospérèrent et se multiplièrent après la Grande Peste, 37 CC, jusqu'au désastre du long hiver, suivi d'une importante famine. Plusieurs milliers d'habitants périrent alors. Mais à l'époque de ce récit, les jours de disette, 1158-1160, n'étaient plus qu'un lointain souvenir, et les hobbits s'étaient de nouveau habitués à l'abondance. Leur terre était hospitalière et prodigue de ses richesses, car bien que désertée depuis longtemps lorsqu'ils y arrivèrent, elle avait été bien cultivée auparavant, du temps où le roi y avait de nombreuses fermes, champs de blé, vignobles et terres boisées. Elle s'étendait sur 40 lieues, des coteaux du lointain jusqu'au pont de Brandivin et en faisait 50 depuis les Landes du Nord jusqu'au marécage du Sud. Les hobbits l'appelèrent le comté, c'est-à-dire la région où s'exerçait l'autorité de leur taine, un lieu d'affaires bien ordonné. Et là, dans cette agréable partie du monde, ils s'affairèrent à vivre leur vie bien ordonnée, et ils firent de moins en moins attention au monde extérieur où de sombres choses évoluaient, si bien qu'ils finirent par croire que la paix et l'abondance étaient la norme en terre du milieu, un droit pour tous les gens de bon sens. Ils oublièrent le peu qu'ils avaient jamais su au sujet des gardiens, ou décidèrent d'en faire fi, négligeant les efforts de ceux qui assuraient la longue paix du comté. Dans les faits, ils étaient protégés, mais ils avaient cessé de s'en souvenir. Jamais il n'y eut de hobbit d'aucune sorte au tempérament guerrier, et jamais les hobbits ne s'étaient battus entre eux. Autant jadis, ils avaient bien sûr été forcés de se battre pour survivre dans un monde cruel, mais du temps de Bilbo, c'était de l'histoire très ancienne. De leur dernière bataille avant le début de ce récit, la seule d'ailleurs à s'être déroulée à l'intérieur des frontières du comté, il ne restait plus aucun témoin vivant. Il s'agit de la bataille des Champs Verts, 1147 CC, au cours de laquelle Bandobras Touk mit une invasion d'orques en déroute. Même les saisons s'étaient adoucies, et les loups chasseurs qui autrefois descendaient du nord lors des rudes hivers blancs n'étaient plus qu'une histoire racontée aux enfants. Ainsi, bien qu'il y eût encore une provision d'armes dans le comté, elle servait surtout de trophée, ornant les cheminées et les murs des habitations ou encore les salles du musée de Grande Creusée. On l'appelait la maison des Matham, car tout ce pourquoi les hobbits n'avaient pas d'usage immédiat, mais qu'ils ne voulaient pas jeter, était pour eux un Matham. Leur demeure avait tendance à s'encombrer de Matham, et nombre des cadeaux qui s'échangeaient de main en main étaient de cette sorte. Ce peuple, malgré le confort et la paix dont il jouissait, conservait une singulière endurance, car les hobbits ne se laissaient pas facilement abattre ou tuer quand les choses en arrivaient là. Et s'ils étaient inlassablement épris des bonnes choses, c'était peut-être justement parce qu'ils parvenaient à s'en passer lorsqu'ils y étaient contraints, et qu'ils pouvaient survivre aux affres du chagrin, de l'ennemi ou du climat, d'une manière qui ne manquait pas de surprendre ceux qui ne les connaissaient pas bien et ne regardaient pas plus loin que leur ventre rond et leur visage joufflu. Lents à la querelle, et ne tuant aucune créature vivante pour le plaisir de la chasse, ils se montraient néanmoins vaillants quand ils étaient acculés, et savaient encore manier les armes en cas de nécessité. Ils tiraient bien à l'arc, car ils avaient la vue perçante et une bonne visée. Non seulement avec l'arc et les flèches. Quand un hobbit ramassait une pierre, il était conseillé de se mettre rapidement à couvert, comme le savaient fort bien les bêtes qui s'aventuraient sur leur propriété. Tous les hobbits vivaient à l'origine dans des trous creusés à même le sol, ou du moins le croyaient-ils, et c'était dans ce genre de demeure qu'ils se sentaient encore le plus à l'aise. Mais au fil du temps, ils avaient dû adopter d'autres types d'habitations. En fait, dans le comté, au temps de Bilbo, il n'y avait en règle générale que les hobbits les plus riches et les plus pauvres pour conserver l'ancienne coutume. Les plus pauvres vivaient encore dans les terriers les plus rudimentaires qui soient, en vérité de simples trous avec une seule fenêtre ou même aucune. Tandis que les mieux nantis se construisaient de somptueuses résidences inspirées des modestes excavations d'autrefois. Mais les sites capables d'accueillir ces grands tunnels ramifiés, ou smioles, comme ils les appelaient, ne se trouvaient pas partout. Et dans les plaines et les basses terres, les hobbits, à mesure qu'ils se multipliaient, avaient commencé à construire au-dessus du sol. En effet, même dans les régions vallonnées et les anciens villages, tels Hobbitville ou Toquebourg, ou dans le chef-lieu du comté, Grande Creusée les Côtes Blanches, on remarquait à présent de nombreuses maisons en bois, en briques ou en pierre. Celles-ci étaient particulièrement appréciées des meuniers, cordiers, forgerons, charrons et autres artisans du même genre, car même lorsqu'ils avaient des trous où habiter, les hobbits avaient coutume de construire des remises et des ateliers. L'habitude de construire des fermes et des granges avait commencé, disait-on, chez les habitants de la Marèche, près du Brandivin. Les hobbits de cette région, le quartier Est, étaient plutôt trapus, avec de fortes jambes, et ils portaient des bottes de nain par temps boueux. Mais ils étaient reconnus pour avoir beaucoup de sang fort tôt, comme en faisait foi le duvet que main d'entre eux portait au menton. Aucun pied velu ou peau blême n'avait trace de barbe. En fait, les gens de la Marèche et du pays de Bouc, à l'est du fleuve qu'ils occupèrent par la suite, arrivèrent pour la plupart tardivement dans le comté, étant venus du sud, et ils conservaient bon nombre de mots et de noms singuliers qui ne se retrouvaient nulle part ailleurs dans le comté. Il est probable que l'art de construire, comme bien d'autres arts, leur venait des Dunedain. Mais les hobbits ont pu l'apprendre directement des elfes qui instruisirent les hommes au temps de leur jeunesse. Car les elfes du haut peuple n'avaient toujours pas déserté la terre du milieu et demeuraient encore en ce temps-là au Havre Gris, quelque peu à l'ouest et en d'autres endroits non loin du comté. Trois antiques tours elfes se voyaient encore sur les collines des tours au-delà des marches occidentales. Elles brillaient loin dans le clair de lune. La plus haute était aussi la plus éloignée, dressée seule sur un monticule vert. Les hobbits du quartier ouest disaient que du haut de cette tour, on pouvait apercevoir la mer, mais nul ne se souvenait qu'aucun hobbit y fût jamais monté. En fait, bien peu d'entre eux avaient déjà vu la mer ou navigué sur elle, et encore moins étaient revenus pour en témoigner. La plupart des hobbits considéreraient même les rivières et les petits bateaux avec la plus grande méfiance, et ils n'étaient pas nombreux à savoir nager. Et à mesure que les années passaient dans le comté, ils parlèrent de moins en moins aux elfes et se mirent à les craindre, devenant soupçonneux des gens qui les côtoyaient. Et dès lors, la mer fut pour eux un mot d'épouvante et un signe de mort, et ils se détournèrent des collines à l'ouest de leur pays. L'art de construire leur venait peut-être des elfes ou des hommes, mais les hobbits s'en servaient à leur manière. Ils n'étaient pas du tout portés sur les tours. Leurs maisons étaient d'ordinaire longues et basses, en plus d'être confortables. Les plus anciennes n'étaient d'ailleurs que des constructions imitant les smioles, recouvertes de foin ou de chaume, ou encore de gazon, aux murs légèrement bombés. Ce style d'habitation datait cependant des débuts du comté, et l'architecture hobbit avait beaucoup évolué depuis, grâce à des procédés qu'ils avaient appris des nains ou découverts par eux-mêmes. Elle se distinguait encore par cette préférence qu'avaient les hobbits pour les fenêtres rondes et même les portes tout en rondeur. Les maisons et les trous des hobbits du comté étaient souvent de vastes demeures où logeaient de grandes familles. Bilbo et Frodo Bessac, deux célibataires, étaient à cet égard très exceptionnels, comme à bien d'autres égards, dont leur amitié avec les elfes. Parfois, comme pour les Touques de Grand Smeols, ou les Brandybouc de Castelbrandy, plusieurs générations de parents vivaient ensemble et en relative harmonie dans un manoir ancestral aux multiples tunnels. Quoi qu'il en soit, les hobbits étaient tous dotés d'un certain esprit de clan et accordaient beaucoup d'importance aux liens de parenté. Ils dressaient de grands arbres généalogiques aux ramifications complexes et innombrables. Quand on a affaire aux hobbits, il est bien important de se rappeler qui est parent avec qui et à quel degré. Il serait impossible dans ce livre de donner un arbre généalogique qui comprendrait ne serait-ce que les membres les plus éminents des plus importantes familles au temps où se passent ces récits. Les arbres que l'on retrouve à la fin du livre rouge de la Marche de l'Ouest forment en eux-mêmes un petit livre que tous, sauf les hobbits, trouveraient extrêmement fastidieux. Les hobbits adoraient ce genre de choses, quand elles étaient justes. Ils aimaient que les livres soient remplis de choses qu'ils savaient déjà, exposées clairement et sans contradiction.